Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Elite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Elite, présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, c'est l'approche multicanal qui s'intègre à notre balado. Jonathan Ménard, responsable du marketing numérique chez Polysleep, est avec nous pour nous parler de son approche publicitaire pour le géant du matelas. Bonne écoute! Quand je vois tout ce qu'Internet a à proposer, je me dis qu'on a de la chance. En l'occurrence, on va parler d'un très gros acteur dans l'analyse de marché, notamment de la publicité en ligne, j'ai nommé eMarketer. Alors, eMarketer, on a déjà parlé de leurs travaux sur Commerce Elite, c'est un cabinet d'études vraiment à la pointe. Et si je suis autant enjoué aujourd'hui, c'est qu'ils ont sorti leur long webinaire Trends and Prediction pour 2023. Je dois le dire, c'est du très solide et je vous laisserai le lien pour y assister vous-même dans les notes de l'émission. Il y a des heures de contenu qu'on ne va pas évidemment résumer en une chronique, mais j'aimerais toutefois vous parler du webinaire qui repose essentiellement sur les tendances de 2023 et qui parle largement de la publicité. L'étude porte avant tout sur des chiffres américains, mais c'est un marché proche du nôtre et qui est souvent à l'avant-garde de ce que découvrira l'Europe notamment. Allez, on commence maintenant. Si je vous dis qu'il existe un duopole en publicité, sans surprise, vous arriverez à me le citer, Google et Meta. En 2015, ces deux acteurs possédaient ensemble 50% des parts de marché dans le milieu publicitaire numérique. À ce moment précis, on pouvait distinguer trois autres groupes de publicité. La Big Tech comme Apple et Microsoft qui ne verront pas une grosse différence au fil des années, mais qui, selon eMarketer, seront sur la bonne configuration 2023 pour aller grappiller beaucoup plus et on aura le temps d'en reparler plus tard. Les services de streaming avec Spotify, Hulu et TikTok, oui, TikTok est un service de streaming, qui passeront de moins de 2% à plus de 5% en 2023. Mais la plus grosse surprise sera proposée par le retail média. Dans son camp, Instacart, Walmart, mais surtout Amazon, qui à lui seul prend plus de 10% du marché américain, quand Meta est donné à plus de 15% et Google à plus de 20%. En 2023, le taux de croissance dans les nouveaux revenus publicitaires par entreprise va être le plus important dans le retail média, comme Walmart ou Instacart, qu'on ne connaît pas encore en Europe, avec des plus de 42% et plus 41%. Suivi par le streaming avec TikTok et Spotify, 36 et 30%. Apple sera juste derrière avec une croissance de 26% et Amazon qui talonnera à 19%. Meta et Google seront eux derrière avec une croissance de 5 et 3% respectivement. Concrètement, on observe une grosse redistribution des cartes et à la fin probable de ce duopole dans les années à venir. Même Google, qu'on pense être indétrônable, est en train de perdre du terrain sur ce qui a fait de lui ce qu'il est, les search ads. De 2019 à 2024, la part de revenus sur ce segment publicitaire passera chez Google de 61% à 51%, renforçant chaque année Amazon, qui se verra passer de 13 à 26,3% en 2024. Aucun autre média ne se voit profiter de cette baisse. Amazon est le concurrent direct sur ce point. Tellement agressif qu'il se permet même de lancer, pour concurrencer TikTok ou Meta, des Reels à sa façon. Donc des vidéos courtes, verticales, pour mettre en avant ses produits et faire découvrir de nouveaux articles. Et à la question, quelles seront les deux plateformes qui pourraient se partager le duopole dans 10 ans? Les analystes pointent du doigt Amazon forcément, mais aussi Apple qui est en train de gratter du terrain. Intéressant de ne pas trouver TikTok pour le coup. On va terminer avec une autre question à laquelle répond l'étude. Quelle route vont prendre les réseaux sociaux en 2023? Et je dis bien des routes, car eMarketer en voit deux. La première, c'est le e-commerce, encore et toujours. Ces deux dernières années ont été marquées par une succession d'échecs concernant le live shopping, chez TikTok comme chez Meta. Un modèle asiatique n'est pas nécessairement applicable partout. Et pourtant, c'est bien de cette industrie que les réseaux sociaux ont besoin pour augmenter leurs revenus. C'est pour cette raison que la dernière carte à jouer, selon eMarketer, devra être l'arrivée, une bonne fois pour toutes, de l'achat natif sur la plateforme, à savoir vendre à même l'application sans passer par un site externe. Deuxième route que les réseaux vont prendre, Search. Le search devrait prendre beaucoup plus de place en 2023 sur tous les réseaux sociaux. Bien que des tests, notamment Meta, aient été faits en 2012 et 2018, le marché n'était probablement pas encore prêt. Mais aujourd'hui, 40% des utilisateurs américains âgés de 18 à 24 ans commencent leur recherche sur TikTok ou Instagram au lieu de Google. Il y a un vrai combat à mener cette fois, autant qu'un besoin naissant de services absolus sur les plateformes qu'on utilise. Je m'avance peut-être en disant ça, mais on préfère ne pas gaspiller notre temps à changer d'application pour telle ou telle raison. Si TikTok vient vous faire découvrir des magasins à côté de chez vous, pourquoi vous rendre sur Google Maps? Bref, affaire à suivre. En 2023, avez-vous pensé à quoi allait ressembler votre mix média? On attaque davantage Amazon ou on continue à autant investir sur Meta? Toutes les questions qui méritent d'être posées et surtout répondues suite au Q4 2022. Jonathan Ménard, responsable du marketing numérique chez Polysleep, vient d'ailleurs nous partager sa vision concernant le mix marketing qu'il utilisera en 2023. Prenez des notes, ça commence maintenant. Donc, on est de retour sur la partie discussion du podcast Commerce Célèbre. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Jonathan Ménard, responsable du marketing numérique chez Polysleep. Jonathan, comment ça va aujourd'hui?
Ça va super bien. On est vendredi, fait un petit peu frais. On est en décembre, mais Noël s'en vient. Fait que le blitz marketing n'est pas terminé.
Exact. Ouais. Puis on sort d'un gros blitz marketing hein, avec le Black Friday, tout ça. Là, habituellement, c'est un bon sprint. Et là, on continue en décembre jusqu'à temps de terminer l'année. Puis habituellement, c'est en janvier qu'on prend un petit peu un pas de recul.
Oui, exact. Fait qu'on attend janvier pour se reposer un peu. Mais même encore là, je suis pas mal sûr qu'on va avoir des bons projets de notre côté aussi pour janvier.
Fantastique. Et j'en doute pas. Puis Jonathan, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, où est-ce qu'on va discuter de l'approche marketing de Polysleep qui est très orientée multicanal, autant au niveau différents canaux de marketing numérique, autant au niveau d'une approche hors ligne. Peux-tu nous dire spécifiquement quel est ton rôle chez Polysleep et également peut-être pour mentionner à notre audience, qu'est-ce que Polysleep?
Je vais commencer par qu'est-ce que Polysleep. Pour vous mettre en contexte, Polysleep, c'est une compagnie 100% québécoise avec des produits vraiment bien de chez nous parce que la plupart des produits sont manufacturés, construits entièrement à Montréal. Donc ça, c'est vraiment une distinction de Polysleep. Ça a été fondé en 2016 quand notre président, que vous avez peut-être déjà entendu sur d'autres podcasts, est quand même très impliqué dans le milieu marketing puis dans le milieu entrepreneurial, Jeremiah Curvers. Il y a quelques années, justement en 2016, il a eu la malchance d'avoir une hernie discale puis ça l'a fessé solide, là, comme une grosse intense où il avait vraiment mal. Et justement, là, il était du côté client de qui a constaté qu'il manquait une offre peut-être adaptée pour les gens qui sont dans cette situation-là. Fait qu'il a sorti la planche à dessin, il a trouvé justement des usines locales pour produire les produits. Puis on a sorti dans le fond des premiers matelas justement pour tester le marché. Ça a super bien fonctionné. Fait que là, on est rendu avec une offre. Dans le fond, c'est sûr, majoritairement, on est connu pour nos matelas, mais on essaie aussi de se différencier avec d'autres produits comme des oreillers, des protèges matelas. On a même sorti dernièrement des sofas-lits, des protecteurs. Puis dans le fond, les matelas, on a trois gammes de matelas différentes. Fait que ça ressemble pas mal à ça, Polysleep. Puis pour mon côté, mon rôle, j'ai la chance d'être le directeur marketing et marketing numérique de Polysleep. Pour la portion marketing, j'ai notre équipe marketing qui est constituée vraiment d'une multitude de talents quand même très variés. J'ai la chance d'avoir des spécialistes en relations de presse, en communication, pour les médias sociaux. Mais on a aussi inauguré, puis là je t'en dirais que justement, on teste pour la première fois la capacité de notre studio Polysleep pour les podcasts. Fait qu'on je gère aussi le nouveau Polysleep Studio auquel on a un filmmaker, on a un studio manager, une graphiste qui travaille temps plein. Parce qu'on a eu la chance, dans le fond, d'utiliser le studio dernièrement pour produire depuis un petit peu plus d'un mois tous nos contenus publicitaires, autant vidéo, photo, audio, à l'interne. Fait qu'on gère ça. Puis pour la portion marketing numérique, je gère le site web polysleep.ca. Puis je gère personnellement vraiment tout ce qui est publicité en ligne et hors ligne de l'entreprise. Fait que s'il y a des questions croustillantes justement sur qu'est-ce qui est le marketing de performance pour Polysleep, j'ai encore beaucoup les mains là-dedans.
Puis parlons-en un petit peu parce qu'on en a discuté, toi et moi, récemment ensemble. Tu gères beaucoup de plateformes. Il y a beaucoup de choses que vous faites chez Polysleep. Mais à travers les années, vous n'avez pas eu le choix, vous, de votre côté, de vous diversifier, de diversifier votre enveloppe marketing parce qu'au final, c'était pas uniquement un seul canal qui allait vous amener de la croissance, mais plusieurs canaux mis ensemble. Pour bien situer nos auditeurs, peux-tu nous dire un petit peu aujourd'hui à quoi ressemble votre mix global en marketing?
vais essayer de faire les choses courtes parce que, comme tu as dit, il y a beaucoup de plateformes qu'on utilise à l'heure actuelle. Je vais essayer de simplifier ça le plus. Mais oui, comme tu as dit, on n'a pas eu le choix vraiment, je pense, de diversifier. Puis probablement d'autres gestionnaires en ce moment, dans ces décisions-là, le constatent de plus en plus qu'il faut changer peut-être les plateformes, essayer des nouvelles, changer le format de nos publicités qu'il fait parce que ce qui marchait il y a 2 ans, fonctionne pas nécessairement encore à l'heure actuelle. Mais si j'avais à expliquer rapidement notre mix global, je dirais que facilement, on est peut-être à encore la moitié, un 50% en investissement en ligne. Fait que ça veut dire tout ce qui est SEO, qu'est-ce qui est publicité sur les moteurs de recherche, publicité sur les médias sociaux, publicité vidéo avec YouTube puis d'autres plateformes. Fait qu'on est quand même assez en traditionnel pour ce qui est numérique. On est partout en fait pour le numérique. Mais de plus en plus, mes investissements avec le temps, ben ça se dirige vers des influenceurs, des affiliés qu'on parlera peut-être par la suite, des partenariats avec d'autres marques, des commandites d'émissions télé ou autres canaux, par exemple la radio, etc. Mais aussi des parutions dans le fond classique. Moi, je pensais il y a quelques années que les médias étaient pour mourir plus traditionnels, mais pour vrai, dans notre stratégie marketing, j'ai vu qu'on n'avait pas le choix d'utiliser les médias plus traditionnels, d'utiliser la radio, d'utiliser la télé. Puis justement, ça fait de plus en plus partie de notre mix média. Puis dernièrement, on est aussi une des compagnies qui investit quand même beaucoup en out of home. C'est de quoi que j'ai pas eu la chance de toucher beaucoup avec beaucoup de compagnies parce que c'est quand même un autre monde là, de s'embarquer là-dedans, le out of home. Mais en ce moment, on a des publicités qui roulent dans les gyms, dans certaines stations-service, dans les centres commerciaux. Fait que c'est tout un autre volet, justement, super intéressant qu'on a dans notre stratégie marketing.
Et à la base, Policy, c'est une entreprise de vente en ligne. Et là, vous investissez sur du marketing qu'on pourrait l'appeler quasiment traditionnel. Hein? Et là, habituellement, quand on est dans du marketing numérique, on peut tout tracer. Mais là, quand on est dans du traditionnel, on peut pas tout tracer. Comment on est capable là, de jongler avec tout ça? Parce que si c'est 50% de votre investissement qui est numérique, ben on s'entend que le 50 autres est dans le traditionnel. Comment qu'on peut jongler avec les résultats et savoir sur quel canal miser pour la suite?
Moi, je dirais, c'est d'avoir une bonne stratégie puis pour bien comprendre les médias puis quelles métriques devraient être ciblées pour chacun des médias. C'est sûr qu'on ne sera pas dans des taux de clics ou dans des de la performance de vente pour un billboard sur le bord de l'autoroute, mais il y a quand même des façons, si l'investissement est quand même assez bon en hors ligne, de voir un lift peut-être dans les visites du site web, des visites en magasin et tout. Fait que c'est sûr qu'on est peut-être plus dans des métriques awareness, d'impression, de CPM et trucs du genre, mais on a réalisé avec le temps que si on diminuait ces investissements-là qu'au début on pensait pas pertinentes pour Policy, on voyait un impact négatif sur le moyen terme, sur nos visites sur les sites web. Autant SEO, autant paid, etc. Fait qu'on essaie de jongler avec ça. C'est sûr que c'est toujours moins direct que le marketing numérique. On sait direct que la conversion est arrivée tel jour, même à telle heure est quasiment arrivée la transaction. Fait que ça change un peu la game. Fait que c'est encore un apprentissage pour nous, puis je pense pour tout le monde. On essaie tous de trouver la meilleure façon d'optimiser les trucs hors ligne, mais il y a quand même possibilité de le savoir un peu pour prendre les bonnes décisions là.
Et je m'étais entretenu avec Jérémia plusieurs fois dans le passé. Il me disait que il y a à peu près un an et demi de ça, vous aviez dépassé les 8 chiffres, donc plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Donc félicitations, il y a quand même une très belle croissance, beaucoup de volume de vente qui se fait chez Polysleep. Et là, ma question pour toi est la suivante. C'est quand qu'on commence à regarder pour des métriques un petit peu plus de awareness, ou est-ce qu'on va regarder davantage notre CPM que notre CPC, disons, parce qu'on s'entend, nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est des propriétaires de boutiques en ligne, des directeurs marketing, on veut l'investissement le plus intelligent au bon moment, donc je pense que c'est mieux d'investir dans ce qu'on pourrait appeler du direct response marketing quand on débute, mais quand on arrive à un certain point, il faut peut-être étendre l'enveloppe budgétaire. Ça a été quand le moment de votre côté de se dire, écoute, uniquement du Facebook, du Google, du TikTok, ça sera pas assez.
Moi, je dirais, ça a été l'expérience de dire qu'on commence à vendre dans des magasins. On est tenté aussi, on est sur pas mal toutes les marketplaces. Puis on a vite vu, puis ça, je l'ai vécu avec d'autres marques avant quand j'étais dans des positions marketing aussi, que quand la marque est pas connue, c'est très difficile, même sur un marketplace, qu'on pense des fois que la marque, elle sert à rien. Je voyais une énorme différence entre une marque qui était déjà connue dans certaines régions à l'extérieur du Québec versus d'autres. Fait que ça, je pense que ça a été là peut-être le choc pour nous de voir qu'en Ontario, pour nous, c'est peut-être plus difficile à percer. Puis c'est justement là qu'on a vu, on a fait des tests dans surtout la dernière année pour percer puis se faire connaître plus en Ontario. Alors généralement, nous, notre marque Polysleep, on est quand même assez bon en notoriété au Québec. Ça fait des années qu'on travaille puis qu'une bonne portion du budget marketing, surtout en awareness, a été fait au Québec. Mais là, quand on commence à vouloir attaquer les autres provinces et voire même les États-Unis sur le moyen long terme, il y a de la job à faire pour la awareness parce que surtout qu'on vend des produits quand même de qualité, il faut quand même convaincre une personne d'investir des fois une somme de quand même plusieurs milliers de dollars avec nous. Fait qu'il y a un build-up, c'est sûr, il faut que la personne commence à connaître la marque, en entendre parler. L'étape 2, peut-être qu'elle va nous comparer avec d'autres compétiteurs. Fait qu'à tous les niveaux du processus de décision d'achat de la personne, il faut être présent. Donc, si une compagnie focus juste sur la conversion du remarketing, peut-être ça va bien aller pour le début, mais je pense quand tu es rendu justement dans les 8 chiffres et tout, pour passer à la prochaine étape, puis on voit les autres très multinationales, grandes compagnies, souvent on voit que leurs publicités sont très en awareness parce qu'ils ont considéré justement que oui, on peut peut-être pas traquer le niveau de vente qu'une pub dans le temps des fêtes fait pour IGA, par exemple. J'ai pris Out of Mind parce qu'ils sont souvent très forts dans le temps des fêtes, mais à voir qu'ils répètent la même chanson comme chaque année, c'est parce que ça fonctionne. Les gens y associent le feeling justement d'IGA avec le bien-être du temps des fêtes et tout. Fait que je pense quand même important pour une compagnie de se lancer dans d'autres avenues puis pas juste être en performance. Parce que la performance commence à coûter énormément cher. Vous qui gérez de votre côté plusieurs clients, vous l'avez probablement noté. Mais moi, j'ai fait le saut dans le Black Friday quand mes campagnes justement de remarketing tapaient du 20, 25, 30 $ parfois le CPM. C'est correct pour nous, notre industrie, parce que les produits sont quand même assez dispendieux puis le taux de conversion, ça l'a donné qui était bon. Mais c'est quand même risqué pour une compagnie. Le panier d'achat est très bas.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Élite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne en offrant tous les services qu'un commerce électronique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour terminer l'année en force, rendez-vous au purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse, analyse, ou encore venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours.
Ça change, là, ça ouais. Change, le jeu change. Puis effectivement, je pense que tu as un bon point. Le marketing de performance, surtout quand tu commences à augmenter tes investissements, que ça devient très massif, là, ça peut devenir sensiblement complexe sur le moyen terme. J'aimerais revenir à un point que tu as dit, Jonathan. Vous vendez maintenant dans des magasins. Bon, on le sait, on le voit assez souvent, l'impact de nos campagnes publicitaires en ligne peuvent avoir un impact sur nos ventes en magasin. Mais j'aimerais te poser la question, savoir si l'inverse est aussi vrai. Est-ce que depuis que vous êtes en magasin, vous avez senti qu'une certaine manière, il pouvait peut-être y avoir un impact collatéral positif sur le site Internet?
Écoute, c'est cool d'en parler parce qu'en fait, c'est une aventure toute nouvelle pour nous. Le département, justement, magasin, ça date de moins d'une année. Donc, on est quand même très en mode essai-erreur en ce moment. On commence dans l'industrie à rentrer dans les magasins, à faire des tests, surtout en marketing, puis notre approche de vente magasin. Parce que Polysleep, veut pas, a souvent été reconnu comme une marque strictement e-commerce. C'est même comme ça, si je me rappelle au début du podcast, tu nous présentais, mais ça va être le cas de moins en moins. C'est ça qu'il faut changer un petit peu, puis ça allait évoluer dans le fond pour le mieux. Parce que je dirais qu'on essaie de changer la game. Car c'est présentement assez old school dans l'industrie de qu'est-ce qu'on réalise. Il y a souvent peu d'efforts qui sont faits en marketing pour drive to store les gens, pour attirer les gens dans des commerces. C'est souvent quand même très level où ils vont pousser les gens juste sur des sites en ligne. Fait que par exemple, nous, quand un nouveau client vend des produits Polysleep, on change nos publicités à afficher dans les centres commerciaux que je parlais, stations-service et gym à proximité de ces boutiques-là. Fait qu'on fait des efforts, dans le fond, pour solliciter les gens qui sont out of home dans les régions de ces boutiques-là. Mais on adapte aussi, on utilise le marketing numérique pour drive to store avec des Google Search, le géolocaliser justement dans toutes les régions qu'on a des boutiques. Les campagnes vont diriger plus vers le magasin que notre site web Polysleep. On fait même, on commence de plus en plus à faire des concours en partenariat avec ces boutiques-là, des publicités vraiment spécifiques à ça pour les médias sociaux. Fait que c'est vraiment un succès à date. C'est de quoi qu'on apprend et qu'on s'améliore jour après jour, mais c'est surtout motivant pour moi puis l'équipe d'innover, pousser plus loin l'industrie parce que ça tarde un petit peu. Là. C'est quand même assez old school en ce moment. Là.
J'aimerais parler avec toi du marketing d'affiliation. On en a parlé en début de podcast. Ça fait partie de votre mix global, le marketing d'affiliation. Et ça a une part importante de vos revenus. Tu me disais dans un entretien, je pense il y a quelques semaines, c'est 30% de vos revenus, là, marketing d'affiliation. Comment tout ça s'est mis en place?
L'affiliation Aïe, aïe. Moi, je connaissais tellement pas ça. On n'en parle jamais. J'ai jamais vécu cela avec une autre compagnie. J'ai jamais appris quoi que ce soit là-dessus sur les bancs d'école, dans les formations que j'ai suivies. On dirait que c'est un sujet underground, là, que genre peu de gens connaissent ça. Nous, c'est vraiment un succès parce que un petit peu comme les ventes en magasin, on a une personne vraiment temps plein à l'interne qui est spécialiste de l'affiliation. Fait que c'est cette personne-là qui a eu la chance de scale ça de zéro vente à ce 30%-là des revenus de Polysleep. Puis pour construire, dans le fond, ces partenariats, ben je dirais que ça ressemble un petit peu à du marketing par influence. Fait que je vois ça comme un petit peu comme des sites qui est des influenceurs pour nous. Fait que c'est sûr qu'on rentre en contact avec ces plateformes-là. On échange sur les termes de l'entente, on signe un contrat. On envoie souvent aussi un produit pour qu'ils testent, pour qu'ils puissent écrire des reviews. Puis c'est assez classique. Mais pour mettre aussi en contexte peut-être sur l'affiliation, parce que c'est peut-être un sujet que peut-être les auditeurs connaissent pas encore, c'est par exemple si vous marquez sur Google « meilleur matelas 2022 ». Plein de sites comparatifs vont sortir avec des classements souvent de c'est quoi le meilleur matelas justement haut de gamme, c'est quoi le matelas le plus abordable. La même chose peut souvent se produire, vous l'avez sûrement vécu quand vous cherchez des appareils électroniques, des meubles, des jeux vidéo même. Puis pour une compagnie, soit sur ces sites-là, ben généralement, ça a un prix, que ça vous choque ou non. Certains chargent une mensualité, d'autres, c'est un coût par clic. Fait que c'est quand même comme de la gestion, comme si on faisait de la publicité sur Facebook. Tu vas avoir un flat fee peut-être, tu vas avoir des CPC. On va aussi devoir des commissions des fois sur les ventes qui sont réalisées à partir de ces plateformes-là. Puis des fois, c'est quand même assez généreux, là, les commissions, mais ça nous apporte un trafic qu'on n'aurait jamais eu. Puis justement, c'est surtout important pour l'étape que j'expliquais dans le processus d'achat, que la personne nous connaît peut-être, mais quand elle est à l'étape de nous comparer avec des compétiteurs, si tu fais pas partie de ces premiers résultats-là sur Google qui sont déjà comme super solides dans l'industrie puis super connus, ben tu passes à côté de vendre puis tu passes à côté de te faire connaître. Puis on utilise dans le fond, nous, une plateforme assez sophistiquée pour gérer tout ce qui est coût, parce que c'est sûr qu'on gère beaucoup de plateformes différentes, mais avec des bons UTM, des codes de rabais, des fois exclusifs à ces plateformes-là, ben on peut tout tracker puis les paiements, dans le fond, avec ces plateformes-là, se fait même automatiquement. Fait que ça va super bien. Fait qu'il y a des plateformes spécialisées si vous voulez vous embarquer dans le fond dans le affiliate. Puis comme tu disais, nous, ça représente en ce moment 30% des ventes. C'est énorme pour nous. Ça fait partie, dans le fond, prenante de nos décisions d'affaires puis marketing parce qu'ils ont même leur propre calendrier promotionnel, ils ont leur propre budget. L'employé qui gère ça, il a son propre budget à respecter justement marketing parce qu'il y a des CPC puis question de budgeting, marketing en arrière de ça. Puis ils ont même des objectifs de vente à atteindre mensuellement. Fait que c'est carrément comme un département pour nous à part entière, là.
Puis, tu le disais au niveau des comparatifs, là, ça allait grandement vous aider. Vos compétiteurs, là, est-ce que vous les regardez un petit peu? Est-ce que ça ressemble à ça, leur mix global de marketing? Parce que je pense que vous êtes quand même assez proactif là, dans vos approches de votre côté.
Ouais, je pense qu'on sort quand même de l'ordinaire si je me compare à d'autres, mais sachez-le, je pense que dans notre industrie, si je me trompe pas, j'ai peut-être une donnée qui date d'un an, fait que ça a peut-être changé, mais il y a plus de 175 dans le fond détaillants qui est des fabricants en Amérique du Nord de matelas, fait que c'est vraiment un océan rouge là, tout le monde se bat puis c'est souvent des compagnies qui ont commencé e-com, donc sont très forts en e-com. Déjà là de faire un podcast sur les matelas ou même les gens qui vont écouter ce podcast là sur les matelas, ben vous allez sûrement voir des pubs Polysleep, des pubs des compétiteurs aussi sur vos fils d'actualité parce que ça joue vraiment comme ça dans l'industrie. Mais je dirais, ça va vraiment être du cas par cas parce qu'il y a certains fabricants qui ont décidé de s'associer vraiment à des grandes chaînes de vente en magasin. C'est sûr que leur mix marketing va être différent. Mais il y a des compagnies aussi qui sont 100% e-commerce puis ils l'ont resté. Donc, c'est sûr que ça va commencer à différencier avec nous qu'on ait des offres magasins, qu'on ait des offres marketplace. C'est pas tout eux qui vendent sur Amazon, c'est pas tout eux qui vendent sur Costco, sur Best Buy, etc. comme nous. Fait que c'est du cas par cas, je pense, mais c'est sûr qu'à la quantité de compétiteurs, il y en a, c'est sûr que leur mix, il doit se ressembler. Fait qu'on peut pas tout y regarder. S'il y en a un qui sort de l'ordinaire, je vais le tracker, je vais checker qu'est-ce qu'il fait, ça c'est sûr, mais au quotidien, 175 compagnies, c'est pas possible pour nous. Mais ça ressemble à ça.
Puis, on arrive, là, on enregistre le podcast 9 décembre 2022. C'est d'ici quelques semaines, la fin de la plus grande période pour le commerce en ligne. Ça ressemble à quoi, là? Quelle est l'analyse qu'on fait chez Polysleep de notre Q4 jusqu'à maintenant? Bien entendu, c'est pas terminé, mais est-ce qu'on est satisfait? Est-ce qu'on a des apprentissages, des leçons comparativement aux autres années?
Ouais, il reste encore un stretch pour nous avec le Boxing Day qui arrive. Fait que là, on est déjà pas mal à finaliser qu'est-ce qu'on va sortir pour le Boxing Day. Surtout que là, on a le studio à l'interne. Fait qu'on on apprend justement à produire du contenu pour chacune de ces périodes-là. Tout roule comme sur des roulettes présentement. Pour Black Friday, Cyber Monday, on a vraiment eu un Black Friday phénoménal, puis on est vraiment content. C'était la première grosse campagne de notre studio interne en plus. Donc, on est content des résultats finaux que vous pouvez voir, by the way, sur nos médias sociaux. Si vous y allez, je pense qu'ils sont encore accessibles pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut produire. Puis, je suis agréablement surpris. Dans le fond, je pense que j'avais commenté sur un de tes posts LinkedIn. On était en plein Black Friday. Je pense que c'était le vendredi de Black Friday. Puis, personne, je pense, s'attendait. On savait pas à quoi s'attendre avec tout, justement, qu'est-ce qu'on dit dans les médias, les études économiques qui occurrent pas bien. Mais je pense, comme plusieurs compagnies, puis j'ai eu les comptes rendus. Nous, on utilise Shopify. J'ai eu tous les comptes rendus sur notre industrie, sur notre performance. Puis ça a été vraiment excellent comme fin d'année à date. Puis, dans le fond, à ce temps, je ferais quasiment, j'espère, on anticipe le mieux pour 2023. On sait pas non plus l'année prochaine à quoi ça va ressembler. Mais Black Friday, Cyber Monday, c'était dans le positif. Fait qu'on va espérer que ça continue comme ça.
Ouais, finalement, ça a été meilleur que prévu. On dirait qu'on était tous un petit peu à se dire, bon, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moins bon? Parce que 2021 avait été décevant. C'est-à-dire qu'on avait vécu, pour la plupart des boutiques en ligne, des résultats phénoménaux en 2020 pour des raisons totalement évidentes. Bon, 2021, c'était un petit peu le revers de la médaille. On se disait, bon, comment qu'on se situe en 2022 avec la conjoncture économique? Et finalement, les résultats ont été un petit peu meilleurs que prévu. Donc, on se plaindra pas. Puis, avec tout ce que tu vois présentement, Jonathan, avec Polysleep, avec peut-être les compétiteurs, comment tu vois ton mix marketing pour 2023? Crois-tu le changer beaucoup ou ça va ressembler sensiblement à ce que vous faites déjà?
Pour l'instant, je pense qu'on ne réinventera pas la roue sur le court terme, mais je vais garder en tête d'être très diversifié puis surtout flexible. J'ai un budget, dans le fond, mensuel à respecter. Je sais c'est quoi mes proportions pour commencer l'année 2023 que je voudrais mettre dans les plateformes en termes de pourcentage, quelle proportion je vais mettre sur TikTok, sur Meta, sur Google. Mais pour la suite, moi, je dirais, je me garde une flexibilité à 100% de changer la stratégie en cours de route. Puis ça va être surtout selon la performance. Parce que là, moi, j'ai été dramatiquement étonné justement des CPM, surtout sur Facebook et tout. Dans le fond, juste à comparatif, là, je te parlais de 20 à 30 $ de CPM sur Facebook durant notre Black Friday, mais TikTok, en même temps, nous offrait du 5-6 $ Oui, les audiences sont pas pareilles, etc. Mais si on est encore dans l'awareness ou on est encore dans des stratégies plus top funnel ou qu'on veut faire connaître notre marque, montrer les specs, ben peut-être TikTok peut révolutionner peut-être ou faire partie prenante encore plus de mon budget. Je vais continuer à analyser les retours sur investissement, les CPM, les CPC des plateformes. Puis au moins avec le en ligne, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je peux vraiment shifter les budgets au day-to-day ou au week-to-week. Je vais essayer de respecter, dans le fond, pas trop disturber les performances dans les plateformes du jour au lendemain pour que les algorithmes fassent leur travail. Mais s'il y a des décisions à prendre, ben peut-être qu'à la fin de l'année prochaine, si on fera un même podcast, ben Facebook sera plus notre plus gros investissement en ce moment comme que ça l'était dans le passé.
C'est lui en ce moment qui continue à amener un petit peu amener la barque au niveau du marketing numérique.
Ouais, je te dirais un mix Meta, beaucoup les moteurs de recherche aussi. On investit de plus en plus aussi parce que là maintenant avec le studio, on a la capacité de produire beaucoup de vidéos, fait qu'on va investir, c'est sûr, beaucoup pour TikTok, pour des Reels sur Instagram par exemple, Facebook, des stories plus dynamiques, mais surtout YouTube. Fait que ça, on va se lancer avec certains projets YouTube. Puis pour les investissements marketing, ben on va peut-être aussi diversifier parce que là, on a lancé un studio puis on pense même à vendre, dans le fond, des services créatifs pour la production, par exemple, de podcasts, de vidéos, photos. Fait que ça va faire sûrement partie aussi de mon mix marketing qui va peut-être avoir un petit budget d'awareness pour notre studio interne. Parce que c'est une belle façon pour nous d'aider d'autres compagnies d'ici puis diversifier en fait les ventes. On reposera plus sur de la vente de matelas ou de produits. Mais là, on va pouvoir vendre aussi le service parce qu'on a l'expertise maintenant. On a la chance d'avoir l'expertise à l'interne de vendre du service aussi en ce moment.
Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui cherchent un studio vidéo, vous savez où vous retrouvez. C'est sur votre site web qu'on peut en savoir plus. Est-ce qu'il y a déjà une page qui explique le tout?
On est en train de la construire. Enfin, je ne sais pas quand que le podcast va sortir, mais assurément, il va y avoir une page dédiée là-dessus sur notre site web. Puis, il va y avoir possibilité de vous booker du temps aussi avec le studio manager. Puis, ils sont vraiment là, même si vous n'avez pas d'idée finale de qu'est-ce que vous voulez. Ils font des vraiment bons pitch marketing pour vous brainstormer certaines idées puis certaines idées créa. Fait que ça, je vous le conseillerais. Mais attendez peut-être quelques semaines. Ben, ça va mettre la pression sur mon équipe de sortir la page rapidement. Fait que ça, c'est bon que ça soit diffusé. Mais oui, c'est stay tuned.
Stay tuned. Bon, parfait. Ben, Jonathan, maintenant, merci beaucoup. Très belles informations qu'on était capable d'avoir de ton côté aujourd'hui. Une belle compréhension de votre mix marketing. Et je pense que tu as tellement raison. On se doit d'ouvrir nos yeux sur toutes les plateformes en ce moment, autant hors ligne que ce qu'on est capable de voir en ligne. C'est comme ça qu'on va avoir du succès avec notre boutique en ligne. Jonathan, merci énormément. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commercialer.